Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Gueule d'amour, l'étrange monsieur Victor, remorque, lumière d'été, le ciel est à vous. De Jean Grémillon, Serge Danet disait qu'il était le grand perdant d'un âge du cinéma français où tous les autres, les Carnet et compagnie, avaient insolemment gagné. Si le succès ne fut, il est vrai, que rarement au rendez-vous pour ce réalisateur singulier, nombreux sont ceux qui le considèrent aujourd'hui, avec Jean Renoir, comme le cinéaste français le plus important des années 30 et 40. Ce que l'on sait moins, c'est que Grémillon fut aussi un musicien. Monté à Paris de sa Normandie natale, il étudia la musique à la Schola Cantorum, auprès notamment de Vincent d'Indy, où il se lia d'amitié avec Roger Desormières. Plus tard, le chef d'orchestre et le compositeur Roland Manuel collaborèrent fidèlement à l'œuvre de leur ami Grémillon, qui s'était découvert une passion pour le cinéma dans les années 20, alors qu'il accompagnait au violon la projection des films. Grémillon signa la musique de bon nombre de ses films. La musique était au centre de sa vie. Elle inspira et influença énormément son travail cinématographique. En 1981, dans « Musique de notre temps », Georges Léon rendait un hommage musical à Jean Grémillon. À ses côtés, on retrouve une grande amie du cinéaste, la cantatrice Irène Joachim.
L'émission d'aujourd'hui, à laquelle prend part, et je l'en remercie du fond du cœur, Irène Joachim, surprendra peut-être certains des auditeurs habitués de cette série. Certes, l'émission qui commence ne ressemblera guère à celles qui l'ont précédée cette saison, par exemple. Mais écoutez. Ce thème que jouaient Hélène Boschi et Nadine Dessouche est celui d'un film, La maison aux images. Jean Grémillon le réalisa. Il en composa lui-même la musique. En retrouvant cette musique un peu plus tard dans notre parcours, il sera possible d'éprouver sans doute à quel point Grémillon, musicien, révélait ses affinités, à quel point il laissait là aussi s'épanouir une étonnante sensibilité. Grémillon, cinéaste et musicien. C'est pourquoi il nous plaît aujourd'hui de rendre hommage à sa mémoire, ici, à Musique de notre temps, prolongeant ainsi l'hommage que le 9 novembre, la Fédération française des ciné-clubs offrait à Grémillon à la Cinémathèque, avant que ne débute ailleurs un festival de ses œuvres, et que ne tourne en France une exposition photographique à lui consacrée. Grémillon musicien, Grémillon élève de la Schola Cantorum, violoniste auprès de Nestor Lejeune, alors qu'Albert Roussel y enseignait, ayant notamment pour élève Éric Satie, au milieu des années 20, un peu avant. Né en 1901, mort à 58 ans, le même jour que Gérard Philippe, Grémillon cinéaste, laissait le 25 novembre 1959 une très grande œuvre dont deux titres au moins, ou plutôt seulement, ont atteint la popularité. Remorque et Le ciel est à vous. Mais il faut ici, où l'on va entendre les musiques qu'aimait singulièrement Grémillon, oui, il faut absolument citer aussi bien Gardien de phare que La petite Lily, Lumière d'été que L'amour d'une femme le 6 juin à l'aube, qu'André Masson, ou bien que cette maison aux images par quoi nous commencions, pour comprendre, c'est-à-dire pour bien entendre l'importance fondamentale qu'eut toujours la musique sur le comportement du créateur Grémillon et la façon qu'il eut, autant dans ses relations avec les compositeurs qu'avec leurs œuvres, de vivre réellement la musique en musicien. Il n'est pas d'autre raison, donc, à cet hommage. Grémillon, Ami de Roland Manuel, ami de Roger Desormières, ses deux principaux complices, Grémillon familier de Saint-Leu-la-Forêt, où vivait Wanda Landowska, Grémillon cinéaste et Grémillon musicien. Comment, Irène Joachim, l'avez-vous connu?
J'ai eu la grande joie de le rencontrer en 1945, au moment de l'enregistrement du 6 juin à l'aube. C'était extraordinaire. J'en avais entendu beaucoup parler par Roland Manuel et par Desormières. Il m'avait dit à combien il était évidemment musicien et la culture invraisemblable. Mais j'ai pu me rendre compte moi-même que c'était un des hommes les plus attachants que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Et c'était une joie de parler de toutes les musiques, de tous les genres de musique, de toutes les époques.
Lorsque nous nous sommes rencontrés pour établir le plan de cette émission, vous m'avez dit à plusieurs reprises qu'au fond, pour vous, Jean Grémillon semblait connaître toutes les musiques.
Oui, toutes les musiques. Évidemment, on parle, et dans ces films, on entend surtout la musique française depuis les temps les plus reculés, enfin dans le Moyen-Âge. Mais il me parlait aussi, à certains moments, il me parlait aussi de la musique romantique allemande. Et ses préférences allaient vers Weber et Schubert.
Nous aurions pu, Irène Joachim, approcher aujourd'hui la personnalité musicale de Jean Grémillon en essayant de donner, bien sûr, à entendre certaines musiques de ses films seulement, soit qu'il les ait écrites, soit qu'elles aient porté les noms d'Elsa Barène, de Roland Manuel ou de Henri Dutilleux. Mais outre le fait que la plupart des documents sonores des films ne sont pas d'une qualité technique suffisante pour une émission semblable, il vous est apparu à vous-même, Irène Joachim, qui le connaissiez bien, qu'entendre les œuvres qu'aimait particulièrement Grémillon pourrait le définir encore mieux peut-être et donnerait le sens profond de son art. Avant cela, permettez-moi, Irène, cette simple question. Quel est, selon vous, le film où se révèle le mieux Jean Grémillon, musicien?
Bon, c'est très très difficile de faire un choix. Ça, c'est l'histoire de l'île déserte. Bon, je pense peut-être Le ciel est à vous, ne serait-ce que par le fait de l'importance que ça a pris pour lui dans ce drame. Le professeur, Monsieur Larcher, enfin, qui parle de la musique et des aspirations de cette petite fille, la fille de Madeleine Renaud.
Oui, il faut rappeler que Monsieur Larcher est professeur de piano dans une petite ville où vivent des gens singulièrement attachants, le couple Charles Vanel-Madeleine Renaud, qui s'attache à battre un record du monde d'aviation et qui sacrifie en quelque sorte pour cela
Les aspirations de la petite
musicale
fille.
Musicale de la petite fille. Et l'on assiste, avant, dans le déroulement du film, au choix d'un piano. Ce piano est choisi à la faveur d'une interprétation de l'impromptu en sol bémol de Schubert, qui doit convaincre les parents de prendre tel instrument plutôt que tel autre. Alors, pour le souvenir, voulez-vous, Irène, que nous écoutions très brièvement joué par Alfred Brendel le thème de l'impromptu en sol bémol de Schubert.
Avec plaisir.
C'est évidemment bref, mais cela correspond tout à fait à la situation, au rapport des personnages de la scène que nous évoquions. Il s'agissait bien sûr du thème de l'impromptu en sol bémol de Schubert, dont Jean Grémillon s'est servi pour une scène capitale de son film « Le ciel est à vous ». La musique du film était par ailleurs signée de Roland Manuel et dirigée par Roger Desormières. « Le ciel est à vous », d'après ce que vous en dites, Irène, on comprend très bien que Jean Grémillon y exposait de la façon la plus spontanée la vérité de sa culture musicale. Et je songe, moi, à ce merveilleux travail qu'il a réalisé avec un thème d'une chanson populaire française, « Sur le pont du Nord, un bal y est donné », et qui revient au moment les plus dramatiques du film.
Oui, c'est le leitmotiv des petits orphelins. Oui, c'est très, très extraordinaire aussi d'entendre à l'arrière-plan, au moment où Vanel est inquiet parce qu'il a peur que l'avion soit perdu, et sans que l'on voit les enfants, mais on entend ce thème, ce rappel, c'est extraordinaire, parce que je crois que c'est la première fois que c'était fait.
C'est-à-dire qu'il semble que pour Crémillon, la musique de film n'arrivait jamais en ponctuation d'une situation dramatique, mais était situation dramatique
oui,
elle-même.
Oui, oui.
Et je crois que c'est là où il révèle effectivement une très grande sensibilité de musicien. Mais tout ce qui concerne Le ciel est à vous a été, je crois, bien compris, entendu maintenant. Du point de vue de la musicalité, que dire alors Irène Joachim d'un autre très grand film de Jean Grémillon ? Je songe bien sûr à Lumière d'été, dont, je le rappelle, la réalisation, le fait d'importance, date des années de la guerre, celle de la résistance et de l'occupation.
Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce film a donc été tourné en 1942, juste au moment où Desormières terminait l'enregistrement que nous avons fait tous de Pelléas. Et c'est ce que Jean m'a dit quand j'ai fait sa connaissance en 1945. Au moment où il tournait, il avait l'enregistrement et le soir, dans sa chambre d'hôtel, enfin, il l'écoutait. Et je trouve que quand il y a une atmosphère Pelléas tout le long, au point de vue symbolique, tout le long du film qui était pour moi extrêmement, extrêmement net.
Vous savez, je viens de vous écouter avec beaucoup d'attention parce que ce que vous venez de dire explicite parfaitement, en effet, ce climat de lumière d'été. Et il est important, je crois, de le savoir, de savoir que de cette manière-là aussi, Jean Grémillon pensait peut-être déjà, en réalisant Lumière d'été, à un projet dont vous aurez à nous entretenir plus tard et qui montrera la réalité du musicien Jean Grémillon. Mais pour l'instant, pourquoi ne pas évoquer ce climat dans lequel il vivait lui-même alors qu'il réalisait Lumière d'été ? Pourquoi ne pas entendre le début, le tout début de l'ouvrage, Pelléas et Mélisande, le prélude, l'arrivée de Golo dans la forêt, et cela pour une raison que vous saurez très bien nous expliquer quant au choix. Voici, sous la direction de Roger Desormières, le commencement de ce chef-d'œuvre, et c'est le plus grand des Golos, sans doute, que vous ayez connu, que l'on entendra, c'est-à-dire
Etcheverry, bien sûr.
Thank you. pourrais plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort, et voici des traces de sang. Mais maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même, et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. J'entends pleurer. Oh, oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage.
Le commencement de Pelléas et Mélisande avec, dans le rôle de Golo Henri Echeverri, c'est dire, Irène Joachim, que nous avons entendu cet enregistrement historique où vous tenez avec Jacques Janssen et Roger Desormières ainsi que la part essentielle. Cet enregistrement dont vous nous disiez tout à l'heure, il faut le rappeler, que durant qu'il tournait Lumière d'été, Jean Grémillon l'écoutait constamment. Si bien que, peut-être, cette œuvre a imprégné le climat de son film. Mais vous avez d'autres choses à dire au sujet des relations de Grémillon et de Pelléas.
Ces grands arbres, les grands arbres, il m'a parlé de ces grands arbres. Je me rappelle que nous étions à l'opéra, Jean et moi, le soir de la première des dialogues de Carmélite de Poulenc, bien plus tard, puisque c'était le 21 juin 1957. Mais c'est vraiment ce soir-là, après le spectacle, que Jean Grémillon m'a parlé de Pelléas et de sa conception des décors et de la mise en scène qu'il voulait proposer à Desormières en 1951 si Desault n'était pas tombé gravement malade. Il m'a positivement fasciné, car comme il connaissait la partition par cœur, tout ce qu'il avait imaginé était non seulement d'une poésie visuelle intense, mais toutes les réactions des personnages étaient forcément toujours justes, tellement il avait le sens aigu de la musicalité des situations scéniques, comme dit Claudio Abbado de son ami Streller.
Oui, Irène Joachim, tout à l'heure vous nous disiez l'importance qu'avait pour Grémillon dans Pelléas les arbres, les grands arbres, et je suppose que vous faisiez allusion au décor du premier acte.
Oui, bien sûr. Il voulait qu'on voie des très grands arbres pour que les personnages paraissent vraiment écrasés par cette immensité et que les personnages soient très petits. C'est une sorte de destin, si je puis dire, enfin, qui était tout ce qui pouvait se passer dans ce drame.
Jean Grémillon était breton, je crois.
Normand, mais il a beaucoup vécu en Bretagne, enfin ça c'est...
La mer est présente constamment dans son esprit.
Oui, il n'y avait qu'à voir ses yeux du reste.
La mer baigne, si je puis me permettre cette mauvaise image, Pelléas, constamment.
Constamment, et comme en général, les films de Grémillon sont toujours avec des paysages, des perspectives extraordinaires, si on pense à Gardien de phare ou bien à Remorque.
La relation entre Pelléas et Mélisande, en tant que personnage, est-elle possible à faire dans l'esprit de Jean Grémillon avec celle d'un couple de cinéma, Jean Gabin, Michel Morgan? Y a-t-il quelque chose de l'inaccessible aussi?
Je ne sais pas, parce que vous savez, tout de suite, Grémillon penser à Debussy. Beaucoup plus même qu'au personnage.
Alors nous allons y revenir à Debussy. Et si vous le voulez bien, retrouvez votre partenaire, Jacques Janssen, au moment où, conduit par Golo dans le souterrain, il en sort et retrouve la clarté. Et avec la clarté, la mer, et là, on comprendra très bien pourquoi vous avez souhaité que nous écoutions cette scène-là de l'œuvre.
Sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd comme une rosée de plomb et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, sous l'air de toute la mer, il y a un vent frais, voyez, comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites lames vertes. Tiens, on vient d'arroser les fleurs au bord de la terrasse, une odeur de la verdure et des roses mouillées monte jusqu'ici. Être près de midi, elles sont déjà dans l'ombre de la tour. Il est midi, j'entends sonner les cloches, et les enfants descendent vers la plage pour se baigner. Tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour. Elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est passé et ce qui s'est dit hier au soir. Je le sais bien, ce sont l'âge d'enfants. Mais il ne faut pas que cela se répète. Elle est très délicate et il faut qu'on l'aménage, d'autant plus qu'elle sera peut-être bientôt mère. Et la moindre émotion pourrait amener un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit. Évitez-la autant que possible, mais sans affectation d'ailleurs, sans affectation.
Jacques Janssen, Henri Etcheverry, dans cette scène au sortir des souterrains, arrivé sur la terrasse de Péléas et Mélisande, une scène que vous avez souhaité entendre aujourd'hui, Irène Joachim, pour bien des raisons, dont l'une me semble être que nous trouvons là une atmosphère marine, une atmosphère de proche, tout à la fois de Remorque d'une certaine manière et déjà d'un autre film de Jean Grémillon, L'amour d'une femme, absolument, dont la musique alors était d'Henri Dutilleux.
Absolument.
Mais permettez-moi de vous poser encore quelques questions quant au projet qu'avait eu Jean Grémillon de mettre en scène Péléas et Mélisande. Comment voyait-il les situations des personnages ? Et je m'intéresse beaucoup, moi, à la destinée qu'aurait eu Arkel, par exemple, entre les mains, si je puis dire, de Grémillon.
Alors, c'était très extraordinaire, parce que, sur ce plan du décor, dans cette grande scène où Arkel arrive, soutenu par Mélisande, ce pauvre vieil Arkel complètement aveugle, eh bien, il le faisait descendre un immense escalier, parce qu'il sortait évidemment d'une galerie. Il venait de voir le père de Péléas. Et c'était extraordinaire parce qu'il descendait lentement, ce qui fait que toute cette merveilleuse entrée en matière de Debussy était absolument justifiée. Enfin, c'était dans le mouvement, c'était fantastique.
Et l'on retrouve l'image que vous rappeliez tout à l'heure, chère à Strehler, au comportement de Strehler.
Oui, absolument.
J'ai cité, je crois, L'amour d'une femme. C'est un des films, j'allais dire, les plus récents. C'est un des derniers films qu'ait pu réaliser Jean Grémillon, car il faut bien le dire aussi, sa carrière fut celle d'un cinéaste malheureusement maudit, car oui, il avait affaire à ceux pour lesquels le profit compte plus peut-être que l'art. Et nous en reparlerons à propos du Printemps
C'était
de la Liberté.
C'était en 1953. Juste avant le cœur de l'Île-de-France. Enfin.
Et 1953, L'amour d'une femme nous replonge dans une atmosphère marine. Je repense à Péléas encore. Il y a au premier acte, tout à fait à la fin, ce bateau qui a amené Mélisande avec Golo, la tempête.
Oui, la tempête et puis un phare.
Nico. Et un phare. Il y a le gardien de phare qui est un des premiers
courts métrages. Oui, toutes les petites lumières que voit Mélisande, c'est un phare, bien sûr. Et c'était une constante préoccupation chez Grémillon, ce phare. Enfin, ça jouait probablement... J'allais même dire que on peut même faire un rapprochement avec la maison aux images.
Dont nous écoutions tout à l'heure le thème initial.
Parce que cet atelier de la courrière en haut du funiculaire de Montmartre, cet atelier où Dunoyer de Gonzac, Braque, André Masson, Miro sont venus, enfin, venaient toujours. Il y a cette espèce de point de départ, toujours, qui est ou un phare, ou bien quand Jean Grémillon nous disait « Écoutez, je vous quitte parce que je retourne dans mon petit sémaphore. » C'était la maison qu'il habitait un été à Trouville. C'est curieux.
La scène la plus intensément dramatique de L'amour d'une femme, à quoi nous faisions allusion tout à l'heure, est évidemment celle où la jeune femme médecin, incarnée par Micheline Prel, va emprunter le canot de sauvetage pour aller opérer d'extrême urgence dans un phare qui pourrait être celui d'Ouessant, qui est celui d'Ouessant d'ailleurs, par une nuit de tempête. Et là aussi, c'est un des points forts de la sensibilité musicienne, en même temps que musicale, de Jean Grémillon. Et pour l'évoquer, tout en restant dans le climat de Debussy, je vous proposerai d'entendre « Jeu de vagues », le mouvement central du triptyque « La mer », enregistré de façon exceptionnelle, si exceptionnelle que je crois aucun chef d'orchestre au monde ne peut ignorer cet exemple. Et Toscanini, le premier, l'a reconnu. enregistré, disais-je, de façon exceptionnelle par Roger Desormières. Jeu de vague, mouvement médian du triptyque La mer de Claude Debussy, enregistré sous la direction de Roger Desormières. Debussy, Grémillon, La mer. Debussy, Desormières, une association que seule la maladie, l'accident survenu en 1952 à Rome, accident dont était victime irréversiblement Roger Desormières, a rompu. Car je suppose que si les eaux, comme nous l'appelions tous, ceux qui avons eu l'honneur de le connaître et de l'aimer, et parmi ceux-là, ô combien Jean Grémillon, si des eaux avaient pu poursuivre ses activités, il serait né, très certainement, non seulement le projet de mise en scène de Péléas, mais bien d'autres choses encore. Irène Joachim, cet hommage que nous vous rendez, que nous rendons ensemble à la mémoire de Jean Grémillon, doit nous mener tout à fait logiquement à retrouver maintenant la musique par quoi nous commencions, celle de la maison aux images, celle que composait lui-même dans son sémaphore de Trouville, Jean Grémillon, et au cours de laquelle va se placer un hommage à Satie qui indique bien aussi la nature de la sensibilité du cinéaste. Est-ce que je peux révéler que cet hommage à Satie, Grémillon avait voulu vous le dédier comme une marque d'affection très réelle. Nous l'écoutons. Ce n'était pas Satie. C'était Grémillon, joué par Hélène Boschi, Nadine de Souche. Le fragment entendu participe de la musique d'un film, La maison aux images, que Grémillon réalisait dans cette tour de la butte Montmartre. Alors, je ne pense pas qu'on ait, Irène, à retrouver une tour au moment où Socrate va mourir dans l'œuvre admirable d'Éric Satie, mais c'est cette œuvre-là que nous abordons maintenant parce qu'elle souligne encore un trait, me semble-t-il, du musicien qu'était Grémillon. Et vous avez souhaité que ce soit dans l'enregistrement du Queneau que nous l'écoutions, cette œuvre.
Oui, parce que à l'époque, c'était Pierre Bertin qui chantait.
Et Pierre Bertin, lié à Marcel Meyer, l'admirable pianiste qu'a dû très certainement connaître, je le sais d'ailleurs, Jean Grémillon, dans un entourage que nous évoquerons tout à l'heure, celui où que fréquentait également Ricardo Vignes à Saint-Leu-la-Forêt, chez Wanda Landowska, mais j'anticipe, je vais dans tous les sens. Alors retrouvons la ligne très claire, très pure de la mélodie de Satie et écoutons un moment de la mort de Socrate par Huguenot qu'accompagne Jeanine Reiss.
En rentrant, il s'assit sur son lit et n'eut pas le temps de nous dire grand-chose. Car le serviteur des onze entra presque en même temps et s'approchant de lui. Socrate, dit-il, j'espère que je n'aurai pas à te faire le même reproche qu'aux autres. Dès que je viens les avertir par l'ordre des magistrats qu'il faut boire le poison, ils s'emportent contre moi et me maudissent. Mais pour toi, je t'ai toujours trouvé le plus courageux, le plus doux et le meilleur de ceux qui sont jamais venus dans cette prison. Et en ce moment, je sais bien que je suis assuré que tu n'es pas fâché contre moi, mais contre ceux qui sont la cause de ton malheur et que tu connais bien. Maintenant, tu sais ce que je viens t'annoncer. Adieu. Tâche de supporter avec résignation ce qui est inévitable. Et en même temps, il se détourna en fondant en larmes et se retira. Socrate le regardant lui dit, et toi aussi reçois mes adieux. Je ferai ce que tu dis. Et se tournant vers nous, voyez, nous dit-il, quelle honnêteté dans cet homme. Tout le
longtemps que j'ai été ici, il m'est venu voir souvent et s'est entretenu avec moi. C'était le meilleur des hommes, et maintenant, comme il me pleure de bon cœur.
Hugues Queneau, accompagné par Jeannine Reiss, chantait La mort de Socrate d'Éric Satie, une œuvre dont on sait à quel point elle était appréciée par Jean Grémillon. Ce Jean Grémillon que vous savez si bien évoquer aujourd'hui, comme musicien, comme cinéaste, Irène Joachim aimait à fréquenter, vous nous le disiez, Saint-Leu-la-Forêt, où vivait Wanda Landowska. Il y rencontrait toutes les personnalités proches de la très grande claveciniste. Pourquoi avez-vous souhaité, ici où nous évoquons les musiques aimées par Jean Grémillon, davantage que celles qu'il écrivit ou fit écrire, pourquoi avez-vous souhaité, disais-je, que nous écoutions le premier mouvement du concerto pour clavecin et cinq instruments de Manuel de Falla?
Parce qu'il adorait le clavecin. L'instrument en lui-même était déjà vraiment une chose qu'il adorait. Et puis en plus de ça, la passion qu'il avait pour l'Espagne.
Et la rigueur du mécanisme même du clavecin n'est-elle pas aussi un des facteurs qui faisait que Grémillon aimait cette œuvre?
Certainement, certainement.
Roussel à la Scola Cantorum.
Et puis n'était... Ravel.
Et de Falla, donc.
En pensant à son amitié et son admiration pour Roland Manuel.
Roland Manuel qui compose la plupart de ses musiques de films. Nous écoutons le premier mouvement du concerto pour clavecin et cinq instruments de Manuel de Falla.
Thank you.
premier mouvement du concerto pour clavecin et cinq instruments de Manuel de Falla. Cela nous situe à Saint-Leu-la-Forêt, Vanda Landowska, dont Jean Grémillon se flattait d'être l'ami. Vanda Landowska, qu'il voyait et chez laquelle il rencontrait, par exemple, Ricardo Vignès, par exemple aussi Marcel Meyer. Et vous me permettrez, Irène Joachim, ici, d'évoquer un souvenir personnel dans mes relations avec Jean Grémillon. Vous y étiez associé, du moins vous étiez associé à une manifestation pour laquelle je vous avais sollicité l'un et l'autre. Il s'agissait d'établir une liste d'œuvres que vous aimiez et de les présenter et commenter en public. Or, j'étais très très jeune alors dans le métier, Jean Grémillon ne me connaissait pas. Et il mit une seule condition à son acceptation, c'est que je lui fournisse sans aucune omission tous les titres d'œuvres qu'il allait me donner. Et la liste était impressionnante, je dois le dire. Elle reconstituait l'histoire de la musique française, en partant de Léonin de Paris et de ses organets pour arriver à Satie précisément. Et Jean Grémillon, péremptoirement, me dit, je vous préviens, jeune homme, que s'il manque un seul maillon dans ma chaîne, vous ne m'aurez pas le soir de votre manifestation. Je tiens essentiellement à l'organum de Léonin de Paris. Vous comprendrez pourquoi le soir de du concert. Je tiens au moins autant à Idylle de Chabrier, mais sous la seule réserve qu'elle soit interprétée, cette idylle, par Marcel Meyer. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas mon concours. Ce n'était pas méchant, c'était, qu'en pensez-vous, la preuve absolue de ce que j'allais par la suite apprendre de lui, c'est-à-dire l'extraordinaire rigueur d'esprit qui le rapprochait des scientifiques, lesquels, on le sait bien, connaissent merveilleusement leurs limites, mais savent aussi imposer aux autres de connaître les leurs. Et je crois que sa mémoire ne sera pas offensée si nous écoutons Idylle aujourd'hui, non point par Marcel Meyer, je n'ai pu trouver ce document, mais par Pierre Barbizet, qui se situe dans la bonne lignée des interprètes de Chabrier. Thank you. Idylle d'Emmanuel Chabrier, un fragment des pièces pittoresques interprétées par Pierre Barbizet. Quittons cette atmosphère et abordons maintenant, Irène Joachim, si vous le voulez bien, un grand moment de la vie créatrice de Jean Grémillon. Et malheureusement, Jean Grémillon disparu n'aura pas plus de chance aujourd'hui que Jean Grémillon vivant avec cette œuvre colossale qu'aurait dû être Le Printemps de la Liberté. C'est un film qu'il avait voulu, conçu, écrit, pour lequel il avait demandé une musique à Elsa Baren afin de célébrer le centenaire de la Révolution de 1848. Le film n'a jamais existé, le projet ayant été interrompu pour des raisons qu'on peut bien dire aujourd'hui appartenir à la censure, une censure politique. Mais il est resté de cette œuvre au moins un témoignage, un livre que Jean Grémillon avait réussi, grâce au concours d'Aragon, à publier. Une émission de radio aussi. Cette émission de radio, nous la possédons, certes, mais la part musicale que nous y avons trouvée ne correspondait pas, et de loin, à l'essentiel du message, si je puis dire, que Grémillon aurait voulu là faire transmettre d'Elsa Baren et de lui. C'est pourquoi, et je vous prie de vous en excuser, il nous est difficile, il nous est impossible d'écouter même un moment du Printemps de la Liberté. Il fallait néanmoins le dire pour nous permettre de revenir maintenant de façon logique à ce que Grémillon aimait comme musique, aux musiques qui ont façonné peu ou prou son œuvre, parmi celles-ci, La création du monde de Darius Milhaud. Au fond, c'est une époque très voisine de celle que nous évoquions tout à l'heure avec le concerto de clavecin. C'est autre chose, c'est l'époque de ballet, c'est encore l'amitié avec Roger Desormières, bien sûr. C'est Darius Milhaud que nous écoutons ici diriger lui-même le commencement de son œuvre à la création du monde.
Thank you.
La création du monde de Darius Milhaud sous la direction de l'auteur. Parmi les projets qu'avait avec son ami Roger Desormières, Jean Grémillon, vous m'avez dit un jour, Irène Joachim, qu'il était question d'un mystère.
Ah, le mystère, oui. Le Moyen-Âge, autrement dit. Qu'ils voulaient monter tous les deux à Strasbourg, à côté de la cathédrale.
Alors, est-ce le moment de rappeler toute la passion qu'avait Jean Grémillon pour les musiques médiévales, la connaissance fervente qu'il avait aussi bien de Léonin, de Paris, des premiers organistes de Notre-Dame, que de Perrotin, et plus tard Gilles Binchois. Cette passion pour ces musiques du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Mais il les partageait avec Desormières.
Oui, puisqu'il faut rappeler que Roger Desormières, nous avons l'air de faire un parcours en zigzag, mais une vie, c'est d'artiste, c'est aussi cela. Il faut rappeler que Gilles Binchois, et vous en savez quelque chose, participait au tout premier festival d'Avignon quand Jean Villard avait voulu en 1947 que la musique soit aussi à la fête. Alors retrouvons Jean Grémillon, retrouvons le sens du mystère, le goût et la rigueur de l'architecture qu'il avait, et écoutons de Léonin de Paris, Verunt omnes.
Thank you.
Verunt omnes de Léonin de Paris. Lorsque nous avons commencé cet entretien, Irène Joachim, nous écoutions le thème initial de la partition que Jean Grémillon avait écrite pour son film « La maison aux images ». Vous nous avez d'ailleurs bien situé cette maison tout à l'heure. J'aimerais que vous en reparliez avant que nous écoutions la musique. Je veux dire, c'est une maison en forme de tour, de phare, qui se trouve... sur la butte de Montmartre.
C'est imagé, parce que c'était, oui, pas du tout, c'était pas du tout une tour, c'était simplement en haut, à côté du funiculaire.
Et c'est là que venaient graver leurs œuvres un certain nombre de très grands. Qui parmi eux ?
Dunoyer de Segonzac, Georges Braque, André Masson, Miro, Robert Nally, Trémois et beaucoup d'autres. Et
donc,
Picasso.
Jean Grémillon venait les observer, voulait prouver quoi ? Quel était le thème fondamental de son film ?
La main de l'homme, le travail, le côté artisan, la perfection, et de voir l'évolution de...
Et la musique qu'il a écrite et dont nous allons maintenant retrouver un moment le cours, cette musique qu'il écrivait, disiez-vous, dans une chambre de Trouville qu'il appelait son sémaphore. Cette musique pour deux pianos intègre à un moment un air très célèbre, très populaire, dirais-je.
Oui, c'est quand on se balade autour du Sacré-Cœur, on entend tout d'un coup un accordéon. Côté populaire, c'est-à-dire que c'est là qu'on entend la chanson de 14 juillet.
Mais dites-moi, 14 juillet, la partition est signée de Maurice Jaubert.
Oui, mais c'était le thème principal, était de Jean Grémillon.
Alors, nous l'écoutons, et si vous le voulez bien, nous resterons dans la suite de cette partition, parce que tout de même, il ne faudrait pas que cet hommage à Jean Grémillon s'achève sans que l'on ait entendu, dans une certaine durée, ce qu'il était, compositeur, lui-même. Donc, voici par Gilbert Roussel le thème de cette chanson du 14 juillet de René Clair avec le thème fourni par Jean Grémillon, la valse, et puis nous retrouvons la partition de la maison aux images par donc Hélène Boschi et Nadine Dessouche. Cette valse de 14 juillet, le film de René Clair, était interprétée par Gilbert Roussel et située dans le cours de la partition composée par Grémillon pour son film « La maison aux images ». Il faut à cela une explication. C'est l'aspect populaire de Paris, du quartier de Montmartre, que voulait évoquer le cinéaste ici. Le choix qu'il fit de cette valse est très simple à expliquer. car s'il est bien connu que Maurice Jobert est l'auteur de la partition du film de René Clair, il faut savoir que c'est Jean Grémillon qui avait inventé, écrit le thème de cette valse. Et c'est pourquoi Jean Grémillon avait pu intégrer cette pièce dans sa partition. Cette partition, nous allons la retrouver à un moment très fort du film. Celui où le peintre André Masson vient donc dans la maison aux images pour y réaliser une gravure et installe l'œuvre à graver. Il se passe une sorte de moment alchimique que Grémillon a voulu traduire musicalement de façon, disait-il, n'est-ce pas Irène Joachim, diabolique. Et c'est cela que nous allons entendre maintenant en rappelant que Hélène Boschi et Nadine de Sousse ont enregistré cette partition de la musique aux images composée par Jean Grémillon, en rappelant aussi que nous aurions bien voulu écouter un peu de la partition d'Elsa Barène pour le printemps de la liberté, mais il y a des impossibilités auxquelles on se heurte quelquefois et dont il faut ne pas nous en tenir trop grief. Voici, pour terminer cet hommage donc, la partie tourmentée, la partie diabolique de la maison aux images. Je vous remercie, Irène, d'avoir bien voulu évoquer ce qu'était Jean Grémillon, musicien.
Jean Grémillon et la musique par Georges Léon pour Musique de notre temps a été diffusé pour la première fois le 15 décembre 1981. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.